L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Sophie Bernard.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Normalement, je suis en compagnie de ma co-animatrice Sophie Bernard, mais qui prend cette semaine un peu de vacances et on la salue. Alors, la thématique, le thème de ce vendredi, c'est l'intérêt croissant pour la gestion thématique, effectivement, de plus en plus, les clients, qu'ils soient institutionnels ou privés, eh bien, veulent donner du sens à leurs investissements, alors que ce soit sur l'environnement, sur le vieillissement démographique ou encore sur les ruptures technologiques. Quels sont les thèmes recherchés? Est-ce que cette tendance, cette percée de la gestion thématique, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est récent? Comment distinguer d'ailleurs une thématique de long terme, peut-être d'un simple effet de mode? Est-ce qu'il y a des tendances qui font pchit? Les fonds ou les trackers proposés sont-ils performants? Comment choisir les meilleurs? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes du sujet. Bertrand Alfandari, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes responsable du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management.
Oui.
Et effectivement, vous allez nous répondre sur notamment ces trackers, les ETF, comment ça fonctionne. On était habitué à ce que ce soit des trackers sur le CAC, sur le SP500.
Des indices classiques, traditionnels.
Voilà. Eh bien non, et puis c'est pas, apparemment, ça a le vent en poupe, la gestion thématique se prête très bien à l'exercice et à créer ces trackers. En face de vous, Yann Loin, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes responsable de la distribution chez Pictet AM. Alors Pictet, moi, quand j'ai préparé cette émission, j'ai tout de suite pensé à vous, parce que c'est un peu le pape de cette gestion thématique.
C'est le pionnier de l'investissement thématique, effectivement.
Voilà, notamment avec ce fonds sur l'eau, Pictet Water, qui est un des plus gros fonds, avec des performances en plus intéressantes. Alors, en tout cas, voilà, ça m'a paru intéressant d'avoir d'un côté la gestion thématique côté fonds, et de l'autre côté tracker. Alors, le match, mes amis. Nous allons voir, en tout cas, l'Hebdo Patrimoine spécial gestion thématique. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On parle gestion thématique ce matin dans l'Hebdo Patrimoine. Et voilà, on disait à l'instant, c'est vrai que ça a commencé d'une certaine manière avec ce fonds Pictet Water. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On le disait à l'instant, c'est l'un des plus vieux dans sa gamme, Yann Loin.
Alors, Pictet a été pionnier en matière d'investissement thématique. La gamme a été créée en 1995 avec un premier fonds qui s'appelle Pictet Biotech, qui a eu un certain succès en 2020. Pictet Water est arrivé en 2000. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément dans la mode de créer un fonds sur l'eau. On était en pleine euphorie des valeurs technologiques. Et puis, nous sommes partis, comme pour chaque fonds thématique, tout simplement de constats très simples que l'on effectue sur les marchés. La population a tendance à vieillir, la population a tendance à grandir. Il y a 10 000 personnes de plus qui viennent peupler la Terre chaque heure aujourd'hui. Nous sommes 6 milliards d'êtres vivants sur Terre. Ce sera 9 milliards à horizon 2050. Et la quantité d'eau, elle, n'a pas tendance à évoluer. C'est-à-dire que les 0,25% d'eau disponible sur Terre que se partageaient les dinosaures il y a 100 millions d'années, d'eau douce, d'eau douce, parmi la quantité d'eau totale contenue par la Terre, tout simplement sera la même quantité que se répartiront les 9 milliards de personnes qui peupleront la Terre en 2050. Donc nécessairement, très tôt, on a constaté que ça poserait des problèmes en matière d'infrastructures hydrauliques. Il faudra approvisionner les populations en eau. En termes d'urbanisation aussi, c'est une grande méga tendance que l'on a identifié très tôt. La population a tendance à s'urbaniser. C'est 50% de la population mondiale qui vit dans les villes aujourd'hui. Ce sera 70% à horizon 2050. Et puis, en matière de croissance également économique, on a aujourd'hui une problématique de gestion des déchets, une problématique de gestion de nouveaux polluants chimiques. Et toutes ces problématiques-là devront être traitées par des systèmes efficaces de traitement des eaux, de gestion des déchets. Et c'est aussi ce dans quoi nous investissons à travers Pictet Water.
D'accord. Donc, une thématique très présente actuellement et d'avenir, évidemment. Du coup, vous investissez après sur toutes les sociétés, finalement, qui vont s'occuper de ces problèmes ou de ces nouveaux marchés.
Exactement. Le fonds est réparti en trois grands secteurs, les infrastructures hydrauliques, les technologies liées à l'eau et puis les services environnementaux afin de traiter au mieux le secteur de l'eau. Juste pour information, on n'investit pas dans tout ce qui est lié à l'embouteillage plastique. Ça, c'est une question qui nous est régulièrement posée. Et puis également dans la matière première. On a vu des contrats se développer en Californie, en Australie, sur l'eau, sur la matière première. Ce sont des choses dans lesquelles nous n'investissons pas aujourd'hui.
Pas de spéculation sur l'eau. Bertrand Alfondari, vous êtes spécialiste des trackers, les ETF, hein, donc des produits de réplication des indices. Eh bien, on entend parler de vous en ce moment sur l'économie bleue. Expliquez-nous ce que c'est et comment les trackers se prêtent à cette nouvelle économie.
Oui, alors avant ça, je voulais juste dire, au risque de vous décevoir, moi je ne suis pas trop dans un match gestion passive versus gestion active. Je pense qu'il y a des thématiques qu'on peut couvrir après avec différents véhicules. Moi je représente BNP Paribas Asset Management qui est aussi bien présent sur la gestion active que la gestion passive quand il s'agit de proposer des thématiques d'investissement à nos investisseurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Donc BNP Paribas Asset Management a lancé des fonds de gestion active sur différentes thématiques liées à l'évolution des usages de consommation, liées également aux technologies, liées à la santé, liées aux enjeux climatiques, et je dirais surtout liées aux enjeux climatiques, puisque c'est le principal de nos encours. Et on a un fonds également, à l'instar de ce qu'on vient d'entendre sur Pictet et le Pictet Water, on a un fonds qui s'appelle Aqua, aussi en gestion active, qui est géré activement, qui investit également sur ces domaines de gestion des eaux usées et du traitement et de l'acheminement de l'eau. Pour répondre à votre question, Fabrice, oui, moi, je représente l'activité indicielle qui s'appelle BNP Paribas Easy. Et on a des fonds indiciels comme des trackers qu'on appelle ETF. Et on a lancé les premiers ETF thématiques il y a maintenant quasiment 13 ans. C'était sur la thématique du bas carbone. Donc, on a une forte identité sur les thématiques liées aux enjeux climatiques. Donc là, c'était sur la thématique du bas carbone en 2008. Et puis ensuite, on a lancé sur d'autres thématiques comme l'immobilier coté green, comme les infrastructures ESG, comme l'économie circulaire. Ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Tout est un peu lié, hein, finalement, quand on regarde les enjeux climatiques. Et puis effectivement, on est allé sur la thématique de l'eau, mais là, pas sur l'eau potable, mais l'eau salée, puisque c'est l'eau des océans. Et on a lancé un ETF qui réplique un indice qu'on appelle Blue Economy, donc l'économie des océans, en octobre 2020. Donc ça fait quelques mois maintenant. Et la vocation de cet ETF, c'est de répliquer un indice qui est construit par un fournisseur d'indices spécialisé dans l'ESG, environnement, social et gouvernance, qui va sélectionner 50 entreprises dans le monde qui sont réputées pour leur modèle actif en termes d'économie bleue, et donc qui participent à l'économie bleue.
C'est vrai que quand on pense ETF, on pense à cette gestion passive. En d'un mot, qu'est la gestion passive ? Ben, on explique, hein, c'est tout simplement, votre job, c'est de répliquer presque exactement la variation d'un indice, d'un panier de valeurs.
C'est ça, exactement.
Voilà. Donc, c'est S&P, le CAC, voilà. Après, choses plus techniques, on peut inverser le tracker et répliquer une performance à la baisse ou à la hausse.
Voilà, et on peut être sur des thématiques plus particulières, et dans ce cas-là, on ne va pas être forcément sur une représentation sectorielle exhaustive d'un grand indice comme le CAC 40, l'Eurostox ou le MSCI World, si on veut aller sur le marché des actions internationales, mais on va avoir des biais sectoriels puisqu'on va décider d'investir sur des sociétés spécialisées dans tel domaine d'activité, l'économie circulaire ou l'économie des océans. Donc là, on va avoir des biais sectoriels assez forts. Donc pour celui qui veut se, comme on dit, benchmarker, c'est-à-dire suivre de près à la trace un grand indice de référence connu, il ne faut pas aller sur des indices thématiques qui ont des biais sectoriels, il faut aller sur des indices traditionnels. Mais on voit l'appétit des investisseurs depuis quelques années. 2020 a été une année record en termes de collecte et de performance pour les indices thématiques et les fonds thématiques, gestion active comme gestion passive. Mais on voit l'intérêt des investisseurs professionnels comme particuliers. Et c'est la nouveauté d'ailleurs, les particuliers s'intéressent énormément aussi à ces thématiques d'investisseurs, d'investissement et les intermédiaires financiers comme les conseillers en gestion de patrimoine aussi.
Oui, c'est vraiment, et c'est ceux à qui on parle aujourd'hui dans cette émission. Alors, il y a loin, c'est vrai, on parlait essor de la gestion thématique. Chez Pictet, ça fait longtemps qu'on en fait, vous avez surfé sur la vague, pour le coup, avant l'heure. Comment on explique cet engouement ? C'est quelque chose de plus lisible, de plus simple, ou qui correspond à un moment où on a l'impression que peut-être il y a, avec la volatilité du marché, avec les accidents de parcours qu'on peut avoir, on a connu l'an dernier quand même une année boursière très compliquée, est-ce qu'il y a une plus grande lisibilité ? Comment ça s'explique, ce mouvement ?
Effectivement, ça fait 2-3 ans qu'il y a un vrai engouement pour la gestion thématique. On l'a ressenti chez Pictet IBM. On a fait en France la plus belle année de collecte historique en 2020. Je pense qu'il y a trois grands facteurs qui expliquent l'engouement pour la gestion thématique. D'une part, la recherche de bon sens par les investisseurs, cette volonté de comprendre dans quoi on est investi et pourquoi on investit. C'est assez simple, on en parlait avec l'environnement de l'eau. On sait quelles sont les problématiques liées à l'eau. On sait que l'eau est indispensable aujourd'hui à la survie de l'humanité, mais tout comme le bois, nous avons un fonds qui est investi dans l'industrie forestière qui s'appelle Pictet Timber, tout comme la nutrition aujourd'hui qui est une vraie problématique. Donc il y a cette recherche de bon sens d'une part, et puis une recherche de transparence aussi. C'est vrai que c'est très facile aujourd'hui pour un investisseur privé, qu'il ait une appétence ou pas financière, de s'attacher quelque part à la gestion d'un fonds, de s'approprier une gestion et être investi dans la résolution des problématiques de santé à travers Pictet Biotech, à travers la résolution des problématiques de sécurité, hein, que ce soit la sécurité physique ou la sécurité informatique. Et on a beaucoup de cas actuellement avec la digitalisation croissante de cyberattaques, etc. Ça peut être un thème recherché par les investisseurs.
Mais ça veut dire que plutôt que d'aller chercher eux-mêmes peut-être les valeurs qui pourraient composer, on préfère acheter finalement le travail d'un gérant qui va être spécialisé sur un secteur ou un travail d'équipe, hein, de gérant.
Alors c'est un travail d'équipe, c'est le troisième facteur d'ailleurs, hein, c'est la performance. Aujourd'hui, hein, quand on a souvent tendance à comparer ETF et fonds gérés activement. Je pense que c'est deux choses très différentes et qui adressent des objectifs aussi qui sont très différents. Un ETF a pour objectif de réduire un maximum les coûts et de suivre au mieux la performance d'un indice de référence. Un fonds va se battre sur la performance. L'objectif d'un fonds, c'est de générer la surperformance. Chez Pictet, sur les trois dernières années, 84% des stratégies sont surperformantes par rapport à l'indice. Donc le contrat est rempli. Et puis, pour gérer un ETF, pour se positionner et suivre un indice, il faut que l'indice soit créé. L'idée de Pictet, hein, depuis l'origine, depuis 1995, c'est d'ouvrir de nouvelles perspectives de marché. En 2000, il n'y avait pas de fonds existants sur l'eau. Nous sommes les seuls aujourd'hui à gérer un fonds activement sur le bois. Nous avons commencé en 2007 sur les énergies renouvelables. Et c'est vrai que l'objectif a toujours été de faire des constats très simples sur les grandes mutations du monde, de se positionner sur et à l'intersection de ces grandes méga-tendances, hein, ce concept que l'on a défini très tôt lorsqu'on a créé cette gamme thématique. Et l'objectif est finalement tout simplement de proposer des solutions d'investissement qui vont répondre à une demande structurelle liée à l'évolution du monde.
Alors messieurs, on va faire une première pause. On continue à parler justement de ces méga-tendances. Et puis on va parler également des frais et des performances. C'est dans un instant dans l'Hebdo Patrimoine.
8 heures comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7 heures désert eagle, sensible mais sensible. 6 heures en tant que mineur sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien, je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien? Quand tu te fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal.
Et non, ce n'est pas les années 80, c'est bien 2021. On vient d'écouter Hervé, Si bien du mal, victoire de la musique de cette année.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine spécial gestion thématique, faut-il choisir des ETF ou des fonds? Je pense qu'on a déjà eu une première partie de réponse. Il y a quelque chose qui me surprend, messieurs, dans vos réponses, c'est on a l'impression l'un comme l'autre que vous nous dites année 2020 record. J'aimerais qu'on revienne un instant là-dessus. Comment ça se fait que dans une année aussi troublée, aussi chaotique pour les gens qui étaient positionnés, je pense depuis le début de l'année, qu'on subit dans leur portefeuille une baisse de 30-35% sur les marchés, et vous me dites on a collecté comme jamais, Bertrand Alfandari?
Oui. Alors, déjà, c'est un placement de conviction. C'est vrai que si on place la conviction dans la capacité à générer de la surperformance, c'est vrai que c'est une sorte de conviction du gérant, mais la conviction de l'investisseur qu'il ne faut pas oublier, ou de l'intermédiaire financier, du conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que je propose de la conviction d'investir sur une thématique durable. Rien que ça, déjà, c'est intervenir avec conviction dans le marché. Après, le gérant actif, lui, évidemment, a ses propres convictions et va faire les paris dans le marché. Pour répondre à votre question, Fabrice, oui, fort succès. En termes de performance, vous savez, les encours, quand on mesure l'évolution des encours d'une année sur l'autre, il y a aussi bien la dynamique de collecte que l'effet performance, l'effet marché. Donc on se retrouve sur des thématiques qui ont énormément performé. On peut avoir des performances quasiment proches de 200% sur l'année 2020 sur certaines thématiques plus liées aux technologies, notamment, pas forcément à l'eau ou à d'autres thématiques que je connais un peu moins. Pour Blue Economy, c'est encore trop récent puisqu'elle a été lancée en octobre. Mais je dirais que il y a eu une recherche de ESG, déjà, d'une manière générale. C'est-à-dire que, bon, nous, à 80% de nos clients sont des investisseurs professionnels et 20% des investisseurs particuliers. Et donc, ils sont déjà très avisés, très affûtés sur les marchés. Ils vont chercher des sources de diversification de performance. C'est pour ça qu'ils vont sur des thématiques. Avant, ces thématiques étaient réservées à une toute petite poche d'un portefeuille géré par un professionnel qui n'excédait rarement 10%. Maintenant, la thématique peut devenir un investissement cœur pour certains investissements professionnels. Ça veut dire que, alors qu'avant, le périmètre d'intérêt sur les fonds thématiques était assez limité, maintenant, il concerne à peu près tout type d'investisseurs.
Et ça va de plus en plus vite. Hein. On a l'impression qu'il y a une évangélisation qui s'est faite un peu très rapidement, c'est-à-dire il y a encore 10 ans, 12 ans, moi je me souviens, c'est vrai que c'était compliqué, on en faisait, mais bon, c'était un peu les parents pauvres, un peu bon, les sauveurs de l'humanité. Ouais. Et donc on est passé finalement du nice to have, quelque chose de très bien à avoir dans son portefeuille, au must have, c'est-à-dire aujourd'hui on voit de plus en plus de gérants qui s'y mettent et même de fonds qui se transforment carrément avec ces critères ESG.
Oui, parce que ça permet de prendre des contre-courants et de générer des opportunités de performance différentes quand on a des marchés compliqués comme on a eu en 2020. Et c'est aussi pour ça que ça a bien fonctionné. C'est un autre élément. Évidemment, on va aller chercher une capacité à générer de la performance, à générer d'autres sources de performance par rapport aux thématiques standards, on va dire, par rapport aux indices traditionnels, si je reviens à la gestion indicielle. Et donc, on va aller sélectionner des thématiques. Et puis, il y a aussi l'aspect résilience. C'est-à-dire que mars 2020 a été un mois horrible en termes de performance des marchés. Je mets évidemment de côté le contexte sanitaire, social et économique lié à la Covid. Mais en termes de performance et de volatilité, c'était un mois historique avec des pics de volatilité énormes.
On se souvient d'un petit moins 12% le 12 mars. Moi, j'ai ça en tête.
Le 12 mars, et je pense qu'on a dû avoir des pics de volatilité entre 80 et 90% sur le VIX, qui est l'indicateur de volatilité sur le S&P 500, qui est l'indice américain vedette. Et donc là-dessus, on a vu aussi que les stratégies, on a constaté et on a communiqué, du coup tous les investisseurs le savent très bien, que les stratégies thématiques à dominante ESG, c'est-à-dire environnementale, sociale ou gouvernance, ont fait mieux que des indices traditionnels qui n'intègrent pas de filtre ESG. Et c'est pas juste quelques points de performance en plus. Si on regarde sur un an, trois ans, cinq ans, c'est quelques pourcents de performance en plus. Et là, évidemment, on recherche aussi la performance quand on est un gérant professionnel, un conseiller en gestion patrimoniale.
Et ça termine de convaincre les derniers sceptiques. Et alors, justement, sur ces flux-là chez Pictet, vous aussi, vous avez vu ce mouvement, peut-être après je sais pas, avoir été un peu tétanisés. Nous, on a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine sur le plateau. C'est vrai qu'ils ont incité quand même leurs clients à revenir de manière active sur les marchés à partir de ce moment où il y avait ce choc, ce traumatisme. Finalement, ils se sont dit, bon, ça finira par passer. Même si c'est un peu long, ils avaient raison.
Oui, sur les marchés. Il y a deux choses, je pense. D'une part, il y a la compréhension des fonds par les clients et lorsqu'on est investi, lorsqu'on investit généralement, ça travaille contre l'assurance vie, dans une logique de transmission patrimoniale aussi, être investi dans le secteur de l'eau, des énergies renouvelables, du bois, on a plus difficilement tendance à sortir dans les phases de baisse de marché parce qu'aussi les clients comprennent pourquoi ils investissent à long terme. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette tendance-là à la volonté d'investir dans les fonds labellisés ISR, dans la transition énergétique. Alors, les performances ont été bonnes parce que soutenues aussi par les flux. Beaucoup de grands institutionnels ont rebalancé leur stratégie d'investissement vers des thématiques plutôt vertes. Et puis, il y a aussi cette opportunité d'investissement parce que, et ça a été le cas pour nos fonds Pictet Clean Energy et Pictet Global Environmental Opportunities, on a depuis 2-3 ans touché un point d'inflexion d'un point de vue technologique qui permet aujourd'hui de rendre compétitives les technologies liées aux énergies renouvelables, que ce soit les infrastructures solaires ou éoliennes, comparativement au pétrole ou au charbon, et puis également à l'électrification des véhicules avec des technologies de batterie qui ont bien évolué et qui sont soutenues aujourd'hui par toutes les grandes puissances mondiales. On l'a vu, l'élection de Joe Biden va dans ce sens aux États-Unis. Les Chinois se sont positionnés en faveur de l'atteinte d'un objectif neutre carbone à horizon 2060. Le Green Deal européen a pour vocation d'atteindre la neutralité carbone en Europe en 2050. Donc il y a quelque part cet alignement des planètes en faveur de la transition énergétique et qui va être favorable aux fonds labellisés ISR et notamment sur les énergies renouvelables.
Ouais, on peut que s'en réjouir. On a l'impression que après une période quand même où la finance était très critiquée, on se souvient des mots du futur président Hollande, très très remonté, une espèce de ras-le-bol aussi après cette crise qui avait quand même coûté cher à tout le monde, la crise de 2008. On a l'impression que la finance enfin peut redevenir utile. C'est sa vocation première. Bertrand Alfandari.
Je dirais qu'elle l'est déjà, elle l'a toujours été. Après, il faut distinguer de quoi on parle quand on parle de la banque et de la finance. Puis il y a toutes les activités de financement aussi qui sont
alors la finance, je précise, pour la bourse, pour les investissements. Où, voilà, il y avait cette image toujours un peu du grand capital. Et là, on a l'impression que la finance va servir justement cette transition écologique et qu'enfin, on va mobiliser les ressources. Et on sent qu'on en a besoin et que les montants, en plus, sont colossaux pour les nouveaux défis qui nous attendent.
Mais c'est le cas déjà depuis longtemps. Là, vous avez en face de vous deux acteurs qui sont précurseurs, pionniers sur différentes thématiques et qui sont là depuis 12, 15, parfois plus.
25 ans.
Et nous, c'est le cas. Alors, en indiciel, c'est le cas depuis 12 ans, mais c'est le cas quasiment depuis 20 ans en gestion active. Donc, les gestions durables se sont développées assez tôt chez certains acteurs dont on fait partie. Donc, il y a eu cette prise de conscience. Après, c'est vrai que le virage qui est pris dernièrement sur l'ensemble des sociétés de gestion, il est significatif et il est structurant puisque les gestions se transforment en gestion ESG de plus en plus. Donc même sur des indices traditionnels, si je regarde sur mon périmètre de la gestion indicielle, il est possible que demain, des indices qu'on a l'habitude d'utiliser comme le CAC 40, l'Eurostoxx ou le S&P 500 soient demain des indices
dépassé,
je dirais pas, mais qui intègre des filtres ESG, puisque la demande... Faut toujours partir de la demande des investisseurs. À chaque fois, quand on crée un fonds, on le crée parce qu'il y a une demande. On ne se fait pas plaisir, c'est pas un buzz, c'est pas un effet de mode. Le pire, ce serait de lancer quelque chose qui durerait 3 mois, 6 mois, 1 an et qui fasse flop. On veut de la pérennité vis-à-vis de notre approche client, vis-à-vis de notre gamme. Donc, à chaque fois, on passe des mois, voire des années, ça peut arriver, à réfléchir à notre gamme et à ce qu'on va faire comme innovation. Parce qu'innover pour innover, c'est pas une fin en soi. Donc, il faut que l'innovation serve tout le monde. Et je dirais que pour répondre à ce point du rôle de la finance, le rôle d'une société de gestion qui investit pour le compte de ses clients, c'est aussi d'avoir un impact sur ces entreprises sur lesquelles on investit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on investit de plus en plus massivement sur des entreprises qui respectent des critères d'environnement, sociaux et de gouvernance, ça va inciter tous les écosystèmes, tous les secteurs d'activité autour à adopter les mêmes mesures. Donc, quelque part, c'est un cercle vertueux. Et puis, on va jusqu'à voter aux assemblées générales, qu'on soit en gestion active ou gestion passive, BNP PAM, BNP Paribas Asset Management, que ce soit en gestion active ou gestion passive, on va consolider toutes nos positions de nos fonds. Et ensuite, on va aller représenter aux assemblées générales,
dans les réunions d'actionnaires,
pour voter pour s'abstenir, pour voter contre. Et évidemment, on est très regardant sur tout ce qui est décision liée à la gouvernance, au social et à l'environnement. Donc tout ça participe.
Et vu la taille des fonds que ça représente, vous commencez quand même à avoir du poids, je pense.
Oui,
que
parce qu'on a des fonds qui font plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards. Le fonds Aqua, qui est géré activement, fait plus de 3 milliards d'euros. Le fonds Économie Circulaire, qu'on a lancé il y a à peine 2 ans, dépasse les 200 millions d'euros. Le fonds Blue Economy, qu'on a lancé il y a quelques mois, doit dépasser les 50 ou 60 millions d'euros, et uniquement par le biais de conseillers en gestion de patrimoine et d'investisseurs particuliers, sans aujourd'hui. Et le fonds bas carbone qu'on avait lancé il y a 12 ans était resté sur des niveaux d'encours assez faibles de 30, 50, 60 millions pendant des années. Et puis la COP21 fin 2015 a relancé la thématique du bas carbone. Les particuliers sont venus massivement, les investisseurs professionnels aussi, et on est passé de 60 millions d'euros à quasiment 900 millions d'euros aujourd'hui. Donc c'est le bas carbone qui reste une thématique quand même très spécifique, est aujourd'hui l'un de nos fonds les plus importants dans notre gamme. Donc oui, c'est fou, les paradigmes ont vraiment significativement évolué.
La finance, donc, qui est de plus en plus au service de cette transition, et en plus avec de la performance. On va en parler dans un instant. On marque une deuxième pause. On se retrouve juste après. Touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Hey, 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 yeah. Oh, I need love,
me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Oh, for once in my life, yeah, somebody.
Et on vient d'écouter Stevie Wonder, For Once in My Life, sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On est toujours en compagnie de Bertrand Alfandari, BNP Paribas Asset Management, et Yann Loin, Pictet AM, pour discuter gestion thématique. On le disait à l'instant, c'est vrai, juste avant la pause, cette gestion thématique qui a le vent en poupe, qui séduit de plus en plus les institutionnels comme les particuliers. Alors justement, on va ouvrir dans cette dernière partie la partie pratique, justement. Comment on fait pour y accéder? Est-ce que ce sont des fonds accessibles? Est-ce qu'il faut avoir un compte spécifique comment on démarre, Yann Loin, si justement on se dit, bah, tiens, comme disait Bertrand tout à l'heure, on a envie d'en être, on a envie de participer avec son argent, de voter finalement avec son argent sur cette transition écologique à travers des placements financiers. Comment on fait pour accéder à vos fonds?
Alors, la gamme de fonds PICTM, déjà, là, les fonds thématiques, c'est 15 stratégies d'investissement. Alors, vous avez les
15 mégatrends, finalement.
Alors, non, 15 stratégies d'investissement. D'accord. Les mégatendances servent à bâtir hein, des convictions et des thèmes d'investissement, mais les fonds thématiques, il y en a 15 aujourd'hui, ça représente aujourd'hui environ 50 milliards chez PICTM, et qui sont disponibles au travers de contrats d'assurance vie, au travers de comptes titres, alors que ce soit auprès de conseillers de gestion de patrimoine, auprès de banques privées, auprès des banques en ligne également, donc facilement accessible. Et puis, la problématique qui se pose souvent concernant les fonds thématiques pictés, c'est de choisir. Nous avons 11 stratégies pures, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, sur l'eau, sur le bois, sur les énergies renouvelables. Vous allez me dire qu'il faut tout prendre. Bah, tout est passionnant, en fait. Quand on commence à s'intéresser au sujet, c'est vrai que tout paraît passionnant. Tout est performant aussi hein, sur le long terme, alors avec des disparités assez intéressantes année après année. Hein, là aussi...
Ça veut dire qu'on peut bâtir hein, finalement son portefeuille juste avec ces fonds thématiques?
Pas forcément. Tout dépend le profil de risque du client, de son appétence également au marché financier. Hein. Ce sont des fonds quand même investis exclusivement en actions. Mais ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons créé des fonds que l'on appelle multithématiques. C'est-à-dire que dans un fonds comme Global Megatrend Selection, nous allons réunir les 12 stratégies majeures de Pictet au sein d'un seul véhicule, pour ne pas avoir à choisir quelque part. Donc
d'accord,
ça permet d'avoir cette facilité-là, d'avoir le bouquet quelque part.
Et c'est performant, du coup, d'avoir cette diversification extrême sur l'ensemble des stratégies d'investissement?
Effectivement, oui. On a une surperformance par rapport à l'indice monde, hein, qui est le MSCI All Country, celui qu'on a choisi hein, pour toutes les thématiques d'investissement. C'est un indice de performance, pas de construction. Et puis, ça permet aussi de bénéficier de la disparité dans le parcours de performance à court terme de chaque thématique d'investissement. Si on prend l'année 2020, on a eu une année qui a été très favorable hein, à notre stratégie biotech qui est investie dans la recherche médicale, très favorable à Pictet Clean Energy investie dans les énergies renouvelables, comme on le disait tout à l'heure. Et puis en revanche, on a des stratégies avec des bêtas un petit peu plus élevés, des stratégies plus cycliques hein, comme Pictet Timber, parce que la majorité hein, du marché du bois est très indexée au marché immobilier américain et au marché de la construction, donc qui a été plus en difficulté en première partie d'année avant de faire un rattrapage en seconde partie d'année.
Oui,
donc,
le bois est très cher en ce moment.
Le bois est plutôt ouais, très cher par rapport
dépassé,
au prix historique actuellement.
Je ne sais plus quel est le... C'est pas un ster, mais bon, c'est un 2 ou...
Enfin, on est sur des prix, alors, $1,000. Par rapport au bois non coté, on est toujours sur des niveaux de décote qui sont importantes, mais par contre, historiquement, le prix du bois coté est assez élevé
aujourd'hui.
C'est
écolo de couper du bois, du coup?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Pictet Timber, on va, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a fait labelliser ISR, hein, c'est qu'on va travailler depuis la plantation jusqu'à l'exploitation du bois. Donc, on va avoir des valeurs en portefeuille qui sont des sociétés d'exploitation forestière, hein, qui vont planter du bois, exploiter des forêts de manière durable. Et puis ensuite, on va travailler à la fois dans la construction, puisque environ 50% du bois au niveau mondial aujourd'hui est utilisé à des fins de construction, et ça a tendance hein, à progresser, hein, puisqu'on a toutes ces nouvelles réglementations RE 2020 en France qui va arriver, qui va favoriser les constructions en bois, en remplacement du béton progressivement. Et puis, on a aussi des produits hygiéniques qui sont vendus en plus grand nombre à l'échelle mondiale parce qu'on a une population émergente qui atteint ce statut de classe moyenne. On a du bois qui sert à faire du cartonnage et qui sert notamment au commerce en ligne. Et là aussi, on a une consommation qui augmente. Donc, on a une consommation globale du bois qui augmente à l'échelle mondiale. Et puis, parallèlement à ça, on a une problématique de production puisqu'on a des forêts au Canada typiquement qui produisent de moins en moins pour des raisons tout simplement biologique. Hein. On a une problématique également de feux de forêt dans les forêts primaires amazoniennes, etc. Donc on a une problématique de l'offre et de la demande. Encore une fois, ce sont des constats très simples que l'on a fait très tôt, hein, puisque le fonds a été créé en 2005. Et qui sont performantes aujourd'hui.
Ouais, et effectivement, Bertrand, allez-y.
Oui, j'allais rajouter quelque chose sur la performance. Alors, je ne vais pas revenir sur des performances spécifiques parce que on va pas en faire un sujet central parce qu'on a 15 fonds qui répliquent des indices différents. Donc, ça, on ne va pas revenir sur les 15 performances. Mais il y a un constat global quand même. C'est que sur ces 15 indices ESG, qu'on va répliquer, que ce soit sur l'économie circulaire, l'économie des océans, le bas carbone, les infrastructures, peu importe, ou même des MSCI, qui sont des grands indices boursiers ISR géographiques, qui vont être investis sur le monde, sur les États-Unis, sur l'Europe, sur la zone euro, peu importe. On a toute une gamme d'une quinzaine d'ETF qui vont répliquer des indices thématiques ou des indices ISR. On s'est rendu compte que quasiment 90% de ces indices faisaient mieux sur un an et trois ans que leur indice équivalent. Donc ça peut être le MSCI Europe ou le MSCI World, selon la zone géographique sur laquelle on est, mais qui n'a pas de filtre ESG. Donc déjà, c'est vraiment un signe de résilience. Après, évidemment, les performances passées, on le sait, et d'autant plus qu'on a exclu les énergies fossiles de la plupart des portefeuilles. Donc à partir du moment où les énergies fossiles ont souffert en bourse, évidemment, ça crée un avantage compétitif sur la performance d'un fonds qui exclut ces énergies fossiles. Mais on a quand même une forte probabilité, on va dire, historique de faire mieux avec des indices qui intègrent des critères ESG que, enfin, par rapport à des indices
Mais j'ai l'impression que juste ici, c'était pas forcément prouvé.
En fait, on avait un peu les deux écoles. On disait oui, c'est le cas, mais ça dépend sur quel horizon
de temps. Ou peut-être qu'on n'avait pas envie de se priver, des cigarettiers, des pétroliers, des vendeurs d'armes. Aujourd'hui, c'est plus controversé. Hein. Ces controverses sont là aussi et ont émergé, dans l'industrie automobile aussi. Donc, on a l'impression que là, justement, ça a participé du changement de paradigme. Aujourd'hui, on se dit, c'est peut-être l'ESG avant tout.
Oui. Ce que vous disiez tout à l'heure, Fabrice, peut-être. C'est devenu, avant, c'était quelque chose qu'il était bien de faire. Maintenant, c'est quelque chose qu'il est important de faire. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un intérêt aussi pour ces valeurs qui sont en portefeuille. Et je voulais juste rajouter quelque chose sur les enveloppes fiscales, puisque c'était votre question, Fabrice. Et on a donc effectivement l'assurance-vie en France, le support qui doit favoriser les véhicules d'investissement comme les fonds communs de placement. Sur les ETF, ça, il y a à peu près, je dirais, 30-35%, enfin un bon tiers des contrats d'assurance-vie qui référencent.
Vous trouvez désormais, ETF. Parce que c'est vrai que peut-être voilà, dans un fonds d'assurance-vie très bien référencé, à peu près chez tous les distributeurs, toutes les grandes plateformes, ou même jusqu'aux banques en ligne, c'est plus compliqué. J'ai l'impression que l'offre, si vous trouvez
mais
sur
ça
les
évolue
ETF,
vite.
C'est un peu compliqué.
C'est plus compliqué, c'est vrai. Déjà, si on regardait la photographie il y a 3 ans, 4 ans, on avait très très peu de contrats d'assurance-vie qui référençaient des ETF, ou alors c'était des contrats à limite spécialisés sur les ETF. Maintenant, sur les contrats traditionnels d'assurance vie, c'est fréquent qu'on ait des référencements d'ETF et la demande de référencement d'un ETF en tant que nouvelle unité de compte au sein d'un contrat est de plus en plus forte. Après, il y a le compte-titre, évidemment, dès lors que le fonds n'est pas éligible au PEA. S'il est éligible au PEA, il faut évidemment privilégier le PEA. Donc on doit avoir 40% de notre gamme qui est éligible au PEA. Ça dépend de la zone géographique. Et puis, la spécificité de l'ETF, c'est qu'on est sur un fonds qui se négocie exactement comme une action, puisqu'on va l'acheter
et vendre.
On va le négocier en continu sur une bourse, en l'occurrence sur Euronext Paris pour un investisseur français. Donc il y a cette particularité, je dirais, qui est un petit plus, mais qui n'est vraiment pas centrale. Parce que généralement, quand on va sur des thématiques comme ça, action, on y va pour 5 ans minimum. C'est la durée d'investissement minimum recommandée.
Il y a loin, effectivement. On a l'impression peut-être... c'est difficile parce que dès qu'on parle du coup investissement durable, on va pas prendre non plus un ETF pour 3 jours.
Non.
C'est vrai que le fonds, c'est souvent pour 3 à 5 ans minimum.
C'est des investissements à long terme, mais effectivement, 3 à 5 ans, c'est la durée d'investissement minimum qui est recommandée parce qu'il y a des aléas de marché, comme on les connaît actuellement, qui peuvent créer une sous-performance à court terme. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on investit dans ces fonds-là, c'est plutôt à durée longue. Et c'est vrai que c'est des fonds qui entrent dans une logique de construction d'allocation qui est bâtie pour 10, 15 ans. On parle du contrat d'assurance vie, il y a aussi le PER qui est très intéressant, tout ce qui est lié à l'épargne retraite. Ce sont des fonds qui s'intègrent bien dans ces logiques-là d'investissement long terme, à horizon 10, 15, 20, 30 ans, dans la construction de sa retraite, de son épargne retraite. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, dans cette logique-là, à choisir des fonds actions et qui plus est, des fonds thématiques.
Et dans le PER, on trouve de plus en plus d'ETF.
Oui, pour le coup. Les ETF sont de plus en plus référencés, à l'instar de l'assurance-vie au sein du PER. Et c'est vrai que quand on investit sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, l'impact des frais peut aussi
ne pas être. Et il faut que le gérant soit très bon d'ailleurs pour effectivement combler des fois cet écart de frais, parce que 1,5, 2% de différentiel tous les ans, ça peut faire
c'est,
beaucoup.
C'est le but de la gestion active. Hein. Mmh. C'est aussi la raison pour laquelle on paye des frais. Hein. C'est pour financer des équipes de gestion qui vont faire de la recherche. Hein. Chez Pictet, nous avons 42 gérants analystes qui travaillent sur la gestion thématique. Ces gérants analystes sont accompagnés pour chaque stratégie thématique de comités consultatifs. C'est-à-dire que typiquement sur Pictet Water, nous allons avoir 4 gérants analystes qui travaillent, qui ont plutôt une appétence financière pour analyser les sociétés que nous avons ou pas en portefeuille, pour les pondérer également. Donc ça, c'est toute une expertise. Et puis, nous avons des comités consultatifs qui sont composés d'experts du secteur, que ce soit des chefs d'entreprise, des académiciens, des leaders d'opinion, qui vont apporter plutôt leur regard terrain sur une thématique qui est plutôt une thématique de niche et pour laquelle on a besoin de faire remonter une expertise terrain. Donc il y a toutes ces données-là. Et puis sur la partie ESG aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention. Nous avons des personnes chez Pictet qui travaillent exclusivement sur les problématiques ESG, alors que ce soit sur les problématiques environnementales, sociales, mais aussi et surtout de gouvernance, parce qu'il faut des hommes pour évaluer l'excellence managériale ou pas d'une société, pour évaluer la qualité des relations entre actionnaires et dirigeants. Et donc, tout ça nécessite de l'expertise et qui est surperformante à moyen et long terme. Mmh. Je disais tout à l'heure, hein, 84% des stratégies Pictet surperforment sur un an et sur 3 ans leur indice de référence. C'est aussi grâce à ce travail qui est effectué par les équipes de gestion.
Allez, l'heure de la minute pub, allez, ampictet.fr, c'est ça, à peu près, pour vous trouver, Pictet
am.pictet.fr
pour la France. Pour les ETF de BNP PAM,
c'est easy.bnpparibas.fr.
Ben voilà, si c'est easy, on vous croit sur parole, Bertrand. Un grand merci à vous deux, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce sujet gestion thématique, ouvert en tout cas les horizons sur cette finance qui est en train de véritablement de se transformer sous la, la pression des investisseurs. Et c'est tant mieux. Et en plus, il n'y a plus de match, effectivement, ESG contre performance. Cette fois, vous pouvez faire du bien à votre portefeuille, à la planète et aussi en ayant un peu plus de sous à la fin de l'année ou des années d'investissement. Donc c'est tant mieux. Merci Yann Loin, je rappelle que vous êtes responsable distribution chez Pictet AM. Merci à vous Bertrand Alfandari, responsable du développement des ETF chez BNP PAM. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.